Comme Maxime mentionnait tout à l'heure, on commence une nouvelle série ce matin. Je me souviens, 500 ans d'un évangile retrouvé. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais cette année, en 2017, les protestants à travers le monde vont célébrer ensemble 500 ans de réforme. C'est une date un peu arbitraire, mais le 31 octobre 1517, le 31 octobre, Martin Luther, le réformateur, pas Martin Luther King, d'accord? Lui, c'est un petit peu moins vieux que ça. Mais Martin Luther, en Allemagne, est allé à l'église, à la cathédrale de Wittenberg, une petite ville en Allemagne, et puis est allé placarder sur les portes de l'église ses 95 thèses, c'est-à-dire 95 domaines où il réclamait à tout l'évêché, à la papauté, de réviser, de procéder à une réforme profonde dans l'Église catholique. C'était une époque où l'Église était extrêmement corrompue. On sort du Moyen Âge, d'accord? Pour vous situer là, très, très rapidement un petit peu la réforme protestante, des fois les gens ne savent pas. On a la Renaissance au 14e, 15e siècle, en gros. La Renaissance a été un mouvement en Europe où on a effectué un retour vers la littérature. Donc, on a commencé à lire les philosophes grecs, on a commencé à retourner vers les textes originaux aussi dans la Bible, c'est-à-dire que depuis plusieurs siècles, la seule Bible qui était étudiée en général était la Vulgate, qui était une traduction latine faite par Jérôme. Il y avait de cela déjà plusieurs centaines d'années. Et donc, tout le monde, ceux qui étudiaient la Bible, c'est-à-dire les prêtres, tout ça, étudiaient le latin. Puis là, il y a un retour pendant la Renaissance vers les écrits anciens, la littérature ancienne. Et une des choses qui va découler de cela, c'est pas juste la Renaissance qui en est la cause, mais un des éléments, c'est qu'il va venir ensuite de ça, juste avant ça, il va y avoir Gutenberg qui va inventer la presse écrite, c'est-à-dire qu'on va imprimer le livre, super important, au 15e siècle, 1455, première Bible imprimée, ça a été son premier livre officiel, la Bible de Gutenberg. On a encore des copies de la première édition de la Bible. Et donc ça va venir révolutionner des choses. La littérature commence à circuler. Puis ensuite de ça, au 16e siècle, va venir la réforme protestante. La réforme protestante apparaît vers la fin du Moyen Âge, à une époque où il y a énormément de corruption dans l'Église. Quand je dis qu'il y a de la corruption, c'était notoire, tout le monde savait, par exemple, qu'en Italie, quand tu cherchais la vermine, les gens les plus corrompus, tu allais vers le clergé. C'est pas des blagues, là, ce que je vous dis, d'accord? C'était notoire que les prêtres, qui en principe devaient être célibataires, étaient soit mariés ou avaient une concubine. Tout le monde savait ça, d'accord? Il y a eu une époque un petit peu avant la réforme où il y a eu trois papes en même temps. Parce que le pape était corrompu, il était à Avignon, il n'était plus à Rome, et puis on nommait un nouveau pape, mais le pape qui a été destitué ne voulait pas démissionner, donc hop, on était rendu avec deux papes, et puis là on en nommait un troisième dans le but d'en avoir un qui n'était pas corrompu, mais les deux premiers ne démissionnaient pas, on avait trois papes maintenant. Et donc il y avait énormément de corruption dans l'Église, d'accord? L'Évangile n'était pas présent, l'Église faisait un grand trafic de reliques. Donc, c'était quoi des reliques? C'était des pièces qu'on avait saisies, peut-être des bouts de la croix de Jésus ou la dent d'un saint qu'on voulait prier, puis on rapportait cette dent-là, un ossement, un tibia d'un saint, on le rapportait dans l'église de notre village, et puis on avait ça à l'église, puis on pouvait aller prier, se recueillir devant cette relique-là, et puis on pensait que nos prières allaient davantage être exaucées. Et puis l'Église, depuis quelques siècles, mais maintenant ça s'est concentré beaucoup au 15e, 16e siècle, a commencé à vendre des indulgences. Je donne toutes ces informations-là parce que vous allez avoir un peu plus le contexte de cette série qu'on commence ce matin. Les indulgences, c'était quoi? Bien, si vous connaissez un peu la doctrine de l'Église catholique, quand tu es baptisé comme enfant, tu es sauvé. Dès que tu es baptisé, c'est sûr, tu vas aller au ciel. Maintenant, il y a le purgatoire. Qu'est-ce que c'est le purgatoire? C'est un endroit où tu vas aller passer un certain temps pour expier tes fautes avant d'entrer au ciel, d'accord? Donc, tu es sauvé, mais tu as peut-être des fautes à expier. Tu en as peut-être pour 5 ans, tu en as peut-être pour 10 ans, tu en as peut-être pour 200 ans. Ça dépend de la qualité ou de la sainteté de ta vie. Et donc, l'Église catholique avait des projets. La papauté, qui n'était pas très, très spirituelle, avait des projets et voulait construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Ceux qui vont faire une visite à Rome de votre vivant, vous allez trouver ça extraordinaire, la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est très, très beau. Ça a été financé essentiellement avec des indulgences. Alors, des indulgences, qu'est-ce que c'était? Le pape émettait des écrits, des lettres, qui, pour tel montant d'argent, t'assurait de retrancher 10 ans, 15 ans, 20 ans à ton séjour dans le purgatoire. D'accord? C'était ça, les indulgences. Aujourd'hui, les indulgences existent encore, mais on ne les vend plus. Donc, on peut avoir des indulgences en faisant des prières, des choses comme ça, mais ça existe encore. Et donc, vous comprenez que c'était effarant comme pratique, ça n'avait aucun bon sens. Les gens très riches pouvaient s'acheter des indulgences à l'avance pour certains péchés qu'ils voulaient commettre, par exemple. Ça vous donne une idée? Fait que maintenant, ça a l'air loufoque, d'accord, à notre époque, ça a l'air loufoque, mais il faut que vous compreniez que l'Église avait un contrôle sur l'Europe quasi absolu. Un homme ne pouvait pas devenir empereur en Europe sans avoir la bénédiction du pape. En Italie, l'Église possédait plus de la moitié des terres du pays et ne payait pas de taxes pour ces terres-là. D'accord? Donc, la corruption était extrême. Et puis Dieu préparait une réforme en profondeur qui allait venir. Et certains des éléments qui ont préparé ça, c'est cette question-là de la Renaissance, retour vers les textes originaux, retour vers même l'hébreu, puis le grec pour le Nouveau Testament, l'hébreu pour l'Ancien Testament, Gutenberg, la presse, la littérature commence à circuler. Et donc, il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, des théologiens, qui commencent à étudier les textes originaux, à retourner vers les Écritures. Et donc, il va y avoir des gens qui vont précéder ceux dont on va davantage parler pendant la série, Martin Luther, Jean Calvin. Avant ça, il y a eu des John Wycliffe, des Jean Hus, certains sont brûlés au bûcher, mais ces gens-là vont faire la promotion d'un retour vers les Écritures dans la langue du peuple. Et donc, ils vont commencer à traduire la Bible dans la langue du peuple pour que le peuple puisse étudier lui-même les Écritures. Certains de ces grands noms-là, vous avez Martin Luther en Allemagne, je vais faire référence à lui à plusieurs reprises ce matin. Martin Luther était un prêtre catholique qui enseignait la théologie, un professeur de théologie en Allemagne, un homme extrêmement dévot, très, très pieux, qui pratiquait toutes sortes de pénitences parce que sa conscience n'était jamais en paix, et donc qui était conscient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un certain moment donné, Martin Luther va dire qu'il haïssait Dieu parce que Dieu était son juge et sa conscience n'était jamais en paix. Il avait beau se flageller, faire des jeûnes, faire pénitence, acheter des indulgences, sa conscience n'était jamais en paix. Martin Luther n'avait pas l'Évangile. Il n'avait pas saisi l'Évangile encore. Et Dieu va se servir de lui et d'autres personnes aussi pour nous ramener vers l'Évangile. Martin Luther va redécouvrir l'Évangile en étudiant l'Épître aux Romains puis en l'enseignant. Donc, c'est la série qu'on va faire pour les prochaines semaines. On veut vous redonner ces racines-là. Nous avons souvent très peu de culture et on ne réalise pas quel prix a été payé pour que nous puissions avoir l'Évangile, que nous puissions simplement avoir des Bibles dans notre langue, qu'on puisse l'étudier nous-mêmes. D'accord? Et c'est très rare que je fasse ça, mais j'ai des livres à donner ce matin, parce que c'est des bons livres, puis j'en ai plusieurs, j'en avais deux copies, et moi-même, je suis en train de juste rafraîchir ma mémoire. Donc, je vais juste vous les mentionner, si ça vous intéresse, venez me voir après, premier arrivé, premier servi, puis dans les prochaines... C'est en anglais, c'est pour ça que je sais que c'est pas tout le monde qui va venir me voir. Et puis, dans les prochaines semaines, on va avoir la table de livres, puis on va vous recommander d'autres lectures. Mais donc, j'ai une excellente petite introduction à l'histoire de la Réforme, en anglais, et puis un livre de John Piper sur les Écritures et sur l'importance des Saintes Écritures, parce qu'on est dans les Écritures ce matin. Alors, ce matin, on commence avec un premier message. On va voir 5 sola à travers cette série-là. Et le premier qu'on voit ce matin, c'est sola scriptura, les Écritures seules. Un des éléments les plus importants de la grande réforme protestante, c'est un retour vers les Saintes Écritures. Jusqu'à cette réforme au 16e siècle, la Bible n'était utilisée qu'en latin. Et seuls les gens très instruits connaissaient le latin. Les prêtres étudiaient la Bible en latin un peu, étudiaient beaucoup d'autres choses, et faisaient la messe en latin. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu la messe en latin? Est-ce qu'on a des gens qui sont assez jeunes? Oui, vous avez connu ça au Québec, hein? Le Québec, disons, est resté à une autre époque assez longtemps, n'est-ce pas? Et donc, on a connu ça ici, la messe en latin. Au Québec, ça remonte pas à 4 siècles. Mais jusqu'à cette époque-là, en Europe, la Bible n'était pas disponible. Et des hommes et des femmes ont eu à cœur qu'on puisse avoir la Bible dans la langue du peuple pour qu'on puisse l'étudier par nous-mêmes, croyant que Dieu pouvait nous instruire chacun d'entre nous. Et ce matin, on va aller déposer ce fondement-là avec un passage dans 2 Timothée 3. Luc va nous lire le passage de 2 Timothée 3 au complet. On trouve dans ce passage-là 2-3 versets qui sont à peu près les plus concis et les plus complets pour nous convaincre de l'importance de la parole de Dieu et de son utilité pour notre foi. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te bénir parce que tu t'es révélé à nous. Seigneur, tu es un esprit, tu es grand, tu es majestueux, toute ta nature nous parle de ta grandeur et de ta beauté. Seigneur, la nature nous dit combien tu es puissant, combien tu es intelligent, Seigneur, combien tu apprécies le beau, Seigneur. Tout ça, on peut le voir à travers la nature. Mais te connaître personnellement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, connaître ta grâce en Jésus-Christ, connaître tes lois, tes préceptes, Seigneur, c'est par ta parole que tu t'es révélé à nous. Cette parole est précieuse, elle est sainte, Seigneur, précieuse pour notre foi, pour te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, je veux te demander de venir parler à nos cœurs ce matin de tes saintes Écritures. Viens placer dans notre esprit à quel point ces Écritures sont précieuses, combien elles sont riches, combien elles viennent de toi, Seigneur, afin que, comme Église, ta parole occupe toute la place qu'elle doit occuper dans nos vies personnelles, à tous les jours, dans notre quotidien, dans nos pensées, pour former notre manière de réfléchir, pour nous instruire dans tes voies, Seigneur. Et comme Église, pour te célébrer et te connaître, chanter tes louanges, non pas d'un Dieu inconnu et mystérieux, mais d'un Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître. Alors viens nous bénir ensemble ce matin dans tes saintes Écritures. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Donc, comme Yannick le mentionnait, le passage biblique de ce matin est tiré de 2 Timothée 3, 1 à 17, dans la nouvelle édition Genève. Donc, 2 Timothée 3, 1 à 17, nouvelle édition Genève. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Pardon, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Merci, Luc. Alors, comme je le disais à l'époque, l'Église était corrompue. La Bible était en latin, donc on utilisait peu la Bible, Mais à travers les siècles, c'était ajouté à la Bible toute la tradition de l'Église. D'accord? C'est encore la théologie de l'Église catholique aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque vous voulez connaître la théologie ou connaître la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, vous avez la Bible, puis vous avez toute la tradition de l'Église, puis tout ce que la papauté a pu publier avec l'autorité papale à travers les siècles. Et ça, c'est comme ça qu'on connaît la volonté de Dieu dans l'Église catholique. Maintenant, les réformateurs font un retour vers les Écritures. John Wycliffe traduit la Bible, commence à vendre des Bibles. Jean Hus, la même chose, brûlé au bûcher parce qu'il faisait ces distributions-là de Bibles, puis remettait en question l'idée suivante. Est-ce que la tradition de l'Église a le même poids que les Saintes Écritures? Alors, quand je viens à vous ce matin et je dis ça, la réponse, le réflexe, ça va être « ben non ». La Bible, c'est la parole de Dieu, puis les traditions des hommes, c'est des pensées humaines. Mais vous pensez comme ça à cause de la réforme protestante. C'est grâce à ce que ces hommes-là, ce que ces femmes-là ont défendu. Et donc, Martin Luther va avoir à se défendre à plusieurs reprises devant des espèces de cours ecclésiastiques où l'empereur est présent parfois, Charles V va être là des fois, et puis il va défendre cette idée-là que les Écritures seules sont l'autorité qui nous vient de Dieu, qu'on peut déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux uniquement à partir des Écritures, et que tout ce qui serait en contradiction avec les Saintes Écritures serait faux dans le fond, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ils ont résumé cette idée-là en quatre idées, en général, qu'on va trouver, et c'est comme ça que je vous les présente ce matin. La Bible est l'autorité divine, premier élément. Elle est claire, elle est efficace et elle est suffisante. D'accord? Ça fait un peu technique, mais on va aller voir ça dans le texte biblique ensemble ce matin, puis on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Quelle implication ça peut avoir? Ainsi, ce qu'on voit ce matin, c'est que la Bible est la parole qui nous vient de Dieu pour connaître le salut, nous donner la sagesse et nous équiper à faire le bien. La Bible est la parole qui nous vient de Dieu pour connaître le salut, nous donner la sagesse et nous équiper à faire le bien. Premièrement, son autorité divine. Alors, tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà là dans vos Bibles. Vous devriez partir d'ici avec une conviction, c'est que si vous n'avez pas une Bible, vous avez besoin d'une Bible. Et si vous ne lisez pas la Bible, vous voulez lire la Bible, d'accord? Sous quelque forme qu'elle soit, mais les Saintes Écritures. Et on lit dans 2 Timothée 3,16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'apôtre Pierre va dire ailleurs, dans 2 Pierre 1, 20, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, de quoi on parle lorsqu'on dit que toute Écriture est inspirée de Dieu? Premièrement, lorsque l'apôtre Paul écrit ça, il est en train de parler premièrement de l'Ancien Testament. À l'époque du Nouveau Testament, lorsque le Nouveau Testament est écrit sur quelques années, on fait référence essentiellement à l'Ancien Testament lorsqu'on parle de l'Écriture. Et on ne fait pas référence à n'importe quelle Écriture. Quand Paul va citer des poètes grecs, par exemple, c'est très clair dans son esprit que ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsqu'on parlait des Saintes Écritures, des Écritures, de la parole de Dieu, tout le monde, dans le judaïsme et ensuite dans le christianisme, comprenait que c'était l'ensemble des livres qui avait été reconnu par le peuple de Dieu comme étant inspiré de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas faire toute la doctrine de l'inspiration des Écritures, je vais juste placer ça. Et le mot « Écriture » qu'on a là, c'est ça qu'on a dans le grec, « graphé » qui est là. Donc, c'est la parole écrite de Dieu qui a été inspirée. Et le mot grec « inspiré », c'est « qui a été soufflé par Dieu ». D'accord? Qui vient du souffle de Dieu. Donc, Dieu a inspiré les auteurs humains, il les a dirigés dans la rédaction, et elle vient de Dieu. Elle a une autorité en elle-même. Ça a toujours été clair pour les Juifs, pour l'Ancien Testament, et ça a été très clair pour les chrétiens, pour le Nouveau Testament. Et très rapidement, à travers les premières décennies, on va venir confirmer, toute l'Église va venir confirmer ce qu'on reconnaît comme étant le Nouveau Testament. Puis on avait des critères pour ça. C'est un autre sujet encore. Mais il reconnaissait qu'il est inspiré de Dieu. Jésus, par exemple, va citer l'Ancien Testament en disant « Dieu n'a-t-il pas dit? » C'est Dieu qui est en train de parler. Puis il cite l'Ancien Testament. Donc Jésus reconnaît que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et donc, pour les chrétiens, la parole de Dieu n'était pas simplement le fruit d'auteurs humains, mais c'était le fruit d'une inspiration divine. Puis ça, ça a toujours été pris pour acquis. Ce que les réformateurs vont aller défendre, c'est que cette autorité-là n'est comparable avec rien du tout. Si un être humain arrive avec des idées intéressantes, puis il vient de me parler de Dieu, puis il me dit même qu'il y a eu un songe ou quoi que ce soit, puis il me parle de Dieu, je vais aller vers les Écritures pour voir si c'est vrai. Et donc, Martin Luther, Jean Hus, John Wycliffe, Jean Calvin vont tous défendre ce principe-là. Que si tu arrives avec des idées, puis tu viens me présenter des idées, ma référence pour savoir si c'est vrai concernant Dieu, c'est les Saintes Écritures. D'où l'importance pour eux de rendre cette parole-là disponible pour le peuple. D'accord? Martin Luther avait une autre conviction. Il était convaincu que tous les chrétiens ont reçu l'Esprit Saint. L'Église catholique enseignait ça avec le baptême, tu reçois l'Esprit Saint. Mais Martin Luther disait, donc, si tous les chrétiens ont reçu l'Esprit Saint, c'est quoi que les prophéties nous disent dans l'Ancien Testament? Tous les chrétiens peuvent étudier et comprendre la parole de Dieu. Donc, on va étudier la parole de Dieu. Et donc, il voulait que tout le monde l'ait dans ses mains. Martin Luther, en 6 semaines, va traduire tout le Nouveau Testament, pour vous donner une idée, à partir du grec en allemand. Et on va commencer à faire circuler plein de traductions dans les langues du peuple, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il va passer le reste de sa vie à traduire l'Ancien Testament, qui est passablement plus long. Mais donc, c'était important pour eux. C'est quoi les implications pour nous? Mais écoutez déjà cette citation de Martin Luther. Martin Luther dit, « La vraie règle est la suivante. La parole de Dieu établit les articles de foi, ce que l'on croit. Et personne d'autre, même un ange, ne peut le faire. » Alors, c'est au péril de sa vie qu'il a dû défendre ce principe-là. Sa vie était menacée. Il y avait des rois qui lui assuraient leur protection lorsqu'il se rendait dans ces cours ecclésiastiques-là pour dire, on va t'accompagner puis on va te ramener en sûreté. À un certain moment donné, lorsqu'il est en train de quitter un de ces tribunaux-là, il va être enlevé par des hommes masqués. C'est un de ses protecteurs, Frédéric le Sage, qui a envoyé de ses hommes pour l'enlever et il va être caché pendant 10 mois dans un château, dans un des châteaux de Frédéric le Sage, parce que sa vie est en danger. D'accord? Et toujours pour défendre cette idée que les Écritures, c'est la seule autorité finale pour connaître la vérité sur Dieu. Quelques applications. Est-ce que la Bible, pour toi, c'est la parole de Dieu? Je vous dirais que c'est une des questions les plus importantes à laquelle vous avez à répondre de votre vivant. Est-ce que la Bible, pour vous, c'est la parole de Dieu? Et si tu dis, ben pourquoi? Pourquoi ça, c'est une bonne question. Pourquoi ça serait la parole? Pourquoi pas le Coran? Pourquoi pas des pensées de sages? Pourquoi pas un bon livre de philosophie? Pourquoi est-ce que ça serait la parole de Dieu? Excellente question. C'est important de répondre à cette question-là. Puis il y a des bons livres à lire, il y a des belles conversations à avoir. Pose des questions. Ne te satisfais pas tant que tu n'as pas une conviction sur cette question-là. C'est super important. Comment est-ce que tu vois l'autorité de la Bible sur ta vie? Est-ce qu'elle est une règle de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est ça qui détermine ce que tu décides de faire ou de ne pas faire? Est-ce que c'est elle qui conduit ta vie? Est-ce que ton désir est de conformer et réformer ta vie selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça le désir de ton cœur? Tu dis, c'est la parole de Dieu, fait que je veux juste comme qu'elle me guide, puis je vais chercher à réformer ma vie en conformité avec les Saintes Écritures. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Si tu as une question de société qui te trouble, on a des grosses questions de société actuellement, où est-ce que tu cherches la réponse? Est-ce que tu vas vers les Écritures pour voir s'il y a des principes, voir des passages qui te permettent de déterminer ce qui est bien puis ce qui est mal dans ces grandes questions de société? Quand tu parles des choses de Dieu ou de questions éthiques puis t'émets des opinions, est-ce que tes opinions sont éclairées par la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est ton opinion? Les gros gens comme devant, tu as ton avis, puis tu t'en vas, ou tu te dis, non, j'ai une conviction, mais c'est appuyé, là. J'ai pris le temps de réfléchir, je suis allé voir les Écritures pour me forger une conviction. Si tu vis un conflit intérieur, par exemple, tu vis un conflit intérieur avec les Écritures, tu lis la parole, puis là tu dis, pas sûr que je veux faire ça, Seigneur, pas certain que je suis d'accord avec ça. Des fois, tu lis les Écritures et tu es scandalisé. Est-ce qu'il y en a qui sont scandalisés des fois lorsqu'ils lisent les Écritures? Ma gang de menteurs. On peut aller dans les juges si vous voulez que je vous scandalise ce matin. Hein? Un monsieur, un couteau, une épouse. C'est bon, je peux vous scandaliser ce matin. Vous allez scandaliser des fois quand vous lisez les Écritures. Mais des fois, c'est que Dieu nous parle. Puis là, Dieu me brasse. Puis là, je vis comme un conflit intérieur. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous avez juste cette disposition de dire, « Seigneur, je suis pas là, là. Mais j'ai besoin que tu continues à me parler parce que dans mon cœur, je suis pas là. J'ai un conflit intérieur avec ce que je sais que tu attends de moi. Mais je sais que c'est ta parole. Puis je m'en vais dans la prière, puis je cherche la face de Dieu. C'est pas automatique nécessairement. On peut avoir des conflits intérieurs. Des fois, on a besoin que l'Esprit fasse un travail en nous. Alors, voyez-vous, la parole de Dieu était une autorité divine pour eux. Et c'est comme ça qu'on l'a reçue pour nous aussi à présent. La parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle par sa parole. Puis certains vont dire, OK, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas clair. On peut y faire dire n'importe quoi à la Bible. Vous avez déjà entendu ça? On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Pour les réformateurs, la Bible était clair, c'était un point qu'il défendait. Parce qu'en fait, l'Église opposait justement ça. L'Église disait non. Il ne faut pas commencer à mettre la Bible dans la langue du peuple. Le peuple n'est pas instruit, ce sont des gens ignorants. Lire la Bible pour eux et étudier la Bible pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux pour eux. Il faut avoir une formation en théologie. Il faut avoir été formé pour pouvoir interpréter les Écritures. Autrement, ça pourrait être extrêmement dangereux. Puis là, les réformateurs ont dit non, attends un petit peu. Si vous me dites qu'ils sont chrétiens, les Écritures sont claires, ils ont le Saint-Esprit, peut-être qu'on va étudier ensemble la Bible. Mais la Bible est claire, on peut comprendre les Écritures. Et donc ça, c'est un élément super important de la réforme. On peut étudier ensemble les Écritures. Regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Est-ce que la Bible est claire? Bien, il semble que dès l'enfance, elle est claire. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Faisant référence à l'Ancien Testament, parce que Timothée, quand il était jeune, on avait juste l'Ancien Testament. « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » La Bible est à tout le moins assez claire pour qu'un Juif décide de l'enseigner à ses enfants. Si c'est accessible à un enfant, ça devrait être clair, non? Donc, la Bible est claire. Les Écritures sont claires et peuvent rendre un enfant sage. C'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut donner à nos enfants, de les instruire dans la parole de Dieu. Je me suis converti à 19 ans, mais j'ai commencé à fréquenter l'Église quand j'avais 7 ans. De 7 ans à 12 ans, on m'a instruit dans la parole de Dieu. Je lisais la Bible que je pouvais lire à l'époque, la Bible en bande dessinée, puis j'allais à l'école du dimanche, puis j'apprenais, puis vers 12-13 ans, boum, j'ai mis ça en arrière. Je me convertis juste à 19 ans. Pendant des années quand même formatrice de 12 à 19 ans, rien savoir des Écritures, j'ai comme tout ça s'est oublié. Juste quand ça va très mal, je l'ai déjà mentionné souvent, je vais crier à Dieu. Je me convertis à 19 ans. C'est drôle, ça n'a vraiment pas pris de temps. Hein? Tout ce qu'on avait déposé en moi est revenu très rapidement. Je comprenais les enseignements. Je me suis assuré dans la première année de ma vie chrétienne de lire la Bible une fois au complet, au moins, pour juste comme bien placer ce qui n'avait pas été clair dans mon enfance. Et très, très rapidement, j'étais là dans les Écritures. C'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut donner à nos enfants, de leur enseigner la parole de Dieu, les histoires de la Bible, aller vers eux, déposer ça, puis avoir confiance en Dieu, que nos enfants peuvent comprendre les Écritures parce qu'elle est claire. Elle est claire. Tu veux que tes enfants viennent à connaître le Seigneur? Dans Romains 10, 17, Paul dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. » Et donc, on va leur donner la parole de Dieu, puis on va prier pour eux, puis on va laisser Dieu faire son œuvre. En ayant confiance qu'elle est claire et que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans la vie. Alors, pourquoi est-ce que, dans cette Église, on enseigne la parole de Dieu en étant dans le texte biblique? C'est parce qu'elle est claire. Pourquoi est-ce que dans cette église, on a des cours toute l'année de septembre à juin, le dimanche de 9h à 10h pour les gens de tous les âges? C'est parce qu'on veut ensemble étudier les Écritures, parce qu'on veut connaître la parole de Dieu ensemble, on veut passer du temps dans les Écritures. Des fois, les Écritures ont des sujets qui sont difficiles à comprendre, puis on va les étudier ensemble. Dieu donne des enseignants dans l'église pour faire ça. Mais on reconnaît que chaque personne qui a l'Esprit Saint peut comprendre les Écritures. Et si moi, je fais un argument à partir des Écritures, puis que toi, tu dis, ça ne fait pas de sens, je ne comprends pas. C'est correct que tu viennes me voir, que tu ailles voir un enseignant après, puis tu dis, Il me semble que ce n'est pas ça que le texte est en train de dire. Si je ne le comprends pas comme ça, j'ai le droit de poser des questions. Parce que Dieu t'a donné une intelligence pour comprendre les Écritures. Et donc, on va l'étudier ensemble. Paul dit dans 1 Timothée 4, il est en train de coacher son protégé, son pasteur en formation, Timothée, puis il dit dans 1 Timothée 4, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Écoutez bien ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ainsi, Dieu donne des pasteurs à l'Église, des hommes qui vont enseigner la parole de Dieu, des femmes même qui sont des enseignantes qui vont enseigner aux femmes, afin qu'on puisse étudier ensemble. Mais chacune des personnes dans l'Église est appelée à étudier les Écritures parce qu'elles sont claires. Et s'il y a des sujets qui sont difficiles à trancher, dans la majorité des sujets, dans les sujets importants, ce qu'on va appeler souvent les grandes doctrines de la Bible, les Écritures sont claires. Je peux vraiment avoir une conviction que ce que je crois, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé. Ça vient de la pensée de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu. Puis peut-être que les premières fois que j'ai lu la Bible, je dis, « Boy, c'est pas clair cette affaire-là. Il y a comme des milliers d'années d'histoire, de culture. Il y a 66 livres, tu as l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ouais, sois patient. Donne-toi 2-3 ans. Commence par lire la Bible, puis sois accompagné, puis fais 2-3 cours par-ci, par-là. Tu vas voir, c'est complètement fou. Après 2-3 ans, étudier la Bible, comment tu peux la comprendre. Puis, sois fidèle aux assemblées, parce que dans cette Église, par la grâce de Dieu, on essaie d'exposer les Écritures. Quand on dit qu'on fait des exposés bibliques, c'est qu'on essaie le plus possible d'exposer le texte lui-même. J'essaie, si c'est moi qui enseigne, la même chose pour les autres enseignants, de m'abstenir le plus possible de faire la promotion de mes idées, de mes opinions. Ça aucune... On ira prendre un café ensemble si tu vas voir mes opinions sur la meilleure sorte de voiture à t'acheter ou n'importe quoi, d'accord? Mais ça, ça n'a aucune importance. Même en matière éthique, ce n'est pas important, mon opinion. Ce qui est important, c'est ce que les Écritures disent. Et donc, on cherche à exposer. C'est ça qu'on veut faire. On veut exposer la parole de Dieu puis l'étudier ensemble parce que la parole de Dieu est claire. Et lorsqu'on dit qu'on peut faire dire n'importe quoi aux Écritures, pas si on la lit simplement puis on l'étudie. Il y a des sujets qui sont délicats, mais dans sa grande majorité, elle est claire. Elle est claire. C'est Martin Luther, c'est Jerry Bridges qui dit « Ne croyez pas tout ce que vous pensez. » Vous ne pouvez vous faire confiance pour vous conduire dans la vérité. Demeurez dans la parole de Dieu. Maintenant, j'ajouterai ceci. Si tu te trouves dans la parole de Dieu, crois ce que tu penses maintenant. Ce qui est là dans les Écritures. Alors, c'est tellement une bénédiction de pouvoir donner ça à nos enfants, leur donner la parole de Dieu lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'on peut lire les Écritures à tous les jours pour nous-mêmes, de notre côté. On a d'excellents outils maintenant pour étudier la Bible par nous-mêmes qui sont disponibles, soit sur le web, soit dans des bons livres. Vous avez les cours qui vont reprendre en septembre. Faites juste intégrer dans votre vie cette toute petite discipline-là de vous lever une heure plus tôt le dimanche matin, puis de venir ici à 9 heures. Donnez-nous 4-5 ans où vous fréquentez les cours ici. Je vous assure que votre fondement biblique va être incroyable. Incroyable. Vous allez être surpris de voir combien vous comprenez des choses qui semblaient tellement complexes dans le passé parce que les Écritures sont claires. Maintenant, si les Écritures étaient claires, mais qu'elles n'avaient pas un effet profond sur nous, ça pourrait rester juste de la théorie, tout ça. Et c'est pour ça que les réformateurs défendaient l'idée que les Écritures sont efficaces. La parole de Dieu est efficace pour nous transformer. Regardez encore 2 Timothée 3, 16, 17. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » On pourrait rester à la théorie. Non. « Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour nous apprendre à marcher droitement, afin que l'homme de Dieu soit mature, accompli, la femme de Dieu soit mature, accomplie et préparée, équipée, à faire toute bonne œuvre qu'il y a devant lui. » Dans les psaumes, on lit la loi de l'Éternel, psaume 19. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, sa parole est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et donc, la parole de Dieu est efficace pour nous transformer. Les Écritures nous disent que la Bible, c'est l'épée de l'Esprit. Et donc, on croit que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en nous, et lorsque je lis les Écritures, lorsque je suis en train de les lire, l'Esprit va se servir de sa parole pour la rendre vivante et l'appliquer dans ma vie, dans mon cœur. Ce n'est pas magique, c'est surnaturel. Ce n'est pas automatique, ça demande d'aller dans les Écritures, puis chercher, puis prier, puis dire « Seigneur, j'ai besoin, tu vois, mon cœur a besoin d'être réformé, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être façonné à l'image de Christ. » Puis des fois, il y a des domaines où je dis, « Mais Seigneur, c'est tellement difficile. Il me semble qu'il y a tellement de travail à faire encore. Mais je ne me décourage pas, je vais vers les Écritures. » C'est à travers les Écritures que j'ai connu Jésus-Christ. C'est à travers les Écritures que je vais être transformé à l'image de Christ. Il nous dit qu'elle est utile pour nous conduire dans la maturité, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Si tu veux avoir des convictions sur ton éthique au travail, tu vas avoir une conviction sur le mariage, une conviction sur les amitiés, des convictions sur des questions de société. Tu veux aiguiser ton discernement. Je peux le faire à travers des conversations avec des amis, mais à la fin de la soirée, quand ça fait 2 heures autour d'une bonne bière, qu'on jase puis on philosophe, est-ce qu'on est allé au-delà des opinions de chacun puis de la philosophie? Ou est-ce qu'on est allé dans les Écritures pour forger nos convictions? Parce qu'il y a des gens qui sont super intéressants à discuter, mais leurs idées viennent d'où? Est-ce que c'est juste des pensées d'hommes, juste des idées humaines? C'est intéressant, les idées humaines. J'aime lire la philosophie, j'aime me tenir informé sur 1 million d'affaires. Mais j'essaie, par la grâce de Dieu, de pas mettre la parole de Dieu sur un pied d'égalité avec les philosophies puis toutes les opinions que les hommes intelligents puis les femmes intelligentes peuvent m'apporter sur la terre. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que je vais lorsque je veux être réformé. Elle est efficace pour sauver. C'est par la parole de Dieu qu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ. Dans Jean 5, 39, c'est Jésus qui parle et il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et donc, c'est pour ça que Paul dit à Timothée, il dit, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Il y avait juste l'Ancien Testament, puis il dit, en étudiant l'Ancien Testament, elles peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ, parce que l'Ancien Testament annonçait Jésus-Christ. Et donc, les Écritures sont efficaces pour nous sauver. Martin Luther, moine augustin pendant 12 ans, c'était le plus zélé du monastère. Son confesseur, d'accord, dans l'Église catholique, tu avais un confesseur à qui tu allais te confesser, des fois était épuisé de voir cet homme-là qui faisait des dépressions spirituelles parce que sa conscience l'accusait. Une journée, ses confessions ont duré 6 heures. Pendant 6 heures, il trouvait d'autres péchés à confesser. C'était un moine augustin, vous comprenez? Sa vie était pas mal rangée, le monsieur. Son confesseur était épuisé d'écouter ces confessions-là. Mais son âme n'était pas en paix, parce qu'il disait « Dieu est saint, puis moi je ne suis pas saint ». Martin Luther ne se disait pas « Ok, je suis un meurtrier, c'est pour ça que je suis coupable ». Il disait « Non, non, Dieu est parfait, puis moi je suis imparfait, Dieu est saint, moi je ne suis pas saint ». Il en est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à haïr Dieu. Parce qu'il savait qu'un jour, il allait se présenter devant Dieu, puis que Dieu allait le juger. Puis il se disait, mais pourquoi tu m'as mis au monde si tu vas me juger un jour? Je suis un pécheur, t'avais juste à pas me mettre au monde. Puis il étudiait la lettre aux Romains. Il étudiait l'épître aux Romains, puis en étudiant l'épître aux Romains, il a découvert l'Évangile. Il est allé vers les Écritures, puis dans Romains 1, 17, il a lu ceci, 1, 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Puis en étudiant ça, puis en étudiant la lettre aux Galates, à un moment donné, Luther a allumé, puis il a dit « Attends un petit peu, là, on est sauvé comment? On est sauvé par la foi. » La justice de Dieu, c'est par la foi. Toutes mes pénitences ne servent à rien. J'ai juste à croire dans le sacrifice de Jésus-Christ pour mes péchés. Puis je suis sauvé par grâce. Il a découvert la grâce. Comment il l'a découvert? Bien, il n'y a personne qui allait y enseigner. Tout le monde enseignait toutes sortes de choses fausses. Les Saintes Écritures sont efficaces. Et juste avec la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit-Saint, Martin Luther a redécouvert l'Évangile. J'ai une amie qui a connu le Seigneur dernièrement. Chaque fois qu'elle me raconte, lorsqu'elle est en train de lire la crucifixion de Jésus dans l'Évangile de Marc, elle est seule chez elle, elle est en train de lire ça. Puis elle qui me disait, quelques semaines auparavant, Dieu qui donne son fils, c'est un infanticide cette affaire-là. En lisant l'Évangile de Marc, elle a compris que Christ était mort sur la croix pour ses péchés à elle. Elle était seule avec les Écritures et l'Esprit-Saint. Puis elle a compris que Christ était mort sur la croix pour ses péchés à elle. Et elle s'est convertie. Parce que les Saintes Écritures sont efficaces pour sauver, pour nous transformer. Passez du temps dans la parole. Quand vous partagez l'Évangile, laissez un verset, laissez la parole de Dieu aux gens. Donnez-leur la Bible, encouragez-les à lire un Évangile, accompagnez-le dans ça. Lorsqu'on annonce l'Évangile avec un petit cours comme la foi chrétienne expliquée, on les fait lire l'Évangile de Marc, parce qu'on veut qu'ils plongent les regards dans les Écritures. Développez vos convictions à partir de la parole de Dieu. Examinez vos vies à la lumière de la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu, parce qu'elle est efficace. Parce qu'elle est efficace. C'est l'autorité de Dieu. Elle est claire. Elle est efficace. Puis enfin, en terminant, elle est suffisante. Elle est suffisante. Je l'ai dit à l'époque de la Réforme, il y avait toute la tradition qui était placée à côté de la Bible. L'Église se voyait comme la seule... Là, quand je dis l'Église, il faut comprendre qu'à l'époque, on ne parlait pas de tous les chrétiens, on parlait du clergé, d'accord? Donc, l'Église se voyait comme la seule autorité officielle capable d'interpréter la Bible à la lumière des traditions. Ce qui faisait que tu ne peux pas lire la Bible chez toi seul parce que tu n'es pas assisté par l'Église et par la tradition pour bien comprendre la Bible. Et donc, si la tradition, à un certain moment donné, semble dire quelque chose qui pourrait être en contradiction avec la Bible, par exemple, on va faire un culte des saints, on va prier des chrétiens qui étaient vraiment des chrétiens super incroyables dans le passé qui sont morts, puis ils vont intercéder en notre faveur, ou on va prier Marie. Marie, après tout, qui a mis Jésus au monde, elle devrait avoir un peu d'influence sur le monsieur. On va prier Marie, puis Marie va, elle va glisser un bon mot en ma faveur à Jésus. Ça semble faire du sens humainement, cette affaire-là. La tradition enseignait ça. Oui, mais si les Écritures s'en disent le contraire, l'Église est là pour interpréter la Bible à la lumière des traditions, et c'est l'Église qui a l'intelligence, l'autorité pour interpréter le clergé. D'accord? Et donc, un des grands points de la Réforme, sola scriptura, Les Écritures seules sont suffisantes en matière de foi et d'éthique de vie pour marcher selon Dieu. Et regardez ce que Paul dit à Timothée ici. 2 Timothée 3:16-17. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » C'est l'Écriture qui est utile pour enseigner, pour convaincre. Un petit peu plus tôt, il lui a dit « Demeure ». Demeure, va pas ailleurs, va pas chercher d'autres choses. Reste dans ce qu'on t'a enseigné dans 2 Timothée 3:14-15, juste les versets au-dessus. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ajoute rien à ça. Ça va amener Martin Luther à déclarer dans un de ses cours ecclésiastiques où il va se présenter en 1521, il va dire « Ma conscience est prisonnière des paroles de Dieu » parce qu'on lui demandait de renier tous ses écrits, tout ce qu'il avait dit, où il remettait en question des choses sur l'Église, d'accord? Et puis il dit « Ma conscience est prisonnière des paroles de Dieu, je ne veux ni ne puis me rétracter. Agir contre sa conscience est grave, ce n'est ni sûr ni honnête. » Il dit « Ma conscience à moi, éclairé par la parole de Dieu, c'est suffisant. Et Dieu me jugera sur cette base-là. » C'est fort, là. Il faut que vous compreniez que Martin Luther est en train de s'opposer à toute l'Église catholique. C'est l'Église qui domine l'Europe en entier depuis des siècles, d'accord? Martin Luther va se tourmenter. J'ai dit qu'il allait être 10 mois enfermé dans un château. Pendant ces 10 mois-là, il va se tourmenter Puis il dit, le diable venait me tenter en disant, « Mais t'es complètement fou, Martin! T'es malade, toi, t'as redécouvert la vérité pendant que tous ces gens-là sont dans l'erreur. C'est impossible, c'est pas possible! » Fait qu'il se tourmentait lui-même en disant, « Mais ça se peut pas, c'est une folie, cette affaire-là. Moi, j'ai découvert ça, ça se peut pas. » Comprenez-vous le tourment de dire, « Je m'oppose. » Mais Dieu lui avait accordé cette grâce de se tenir debout puis de défendre cela. Et donc, Martin Luther va dire, « Un simple chrétien armé de l'Écriture est plus grand que le plus puissant pape sans elle. » Sans elle. L'Écriture est suffisante. Bon, aujourd'hui, vous irez peut-être pas vers la tradition ecclésiastique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à l'Écriture lorsque nos cœurs sont troublés, être tentés d'aller chercher ailleurs ou de placer d'autres Écritures? On est à une époque beaucoup plus multiculturelle, puis l'idée de dire que seule la Bible est la parole de Dieu, alors que les livres des autres grandes religions ne seraient pas la parole de Dieu. C'est pas évident, ça. Il faut défendre ça aujourd'hui. On vit à une époque d'ouverture, puis c'est bien d'avoir cette époque d'ouverture, mais il peut aussi y avoir beaucoup de confusion. D'accord? Est-ce que les Écritures sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont seules la parole de Dieu dans ta vie? À l'Église, ici, on vous encourage à lire un paquet de livres. On a des tables de livres à tous les mois, puis on espère que vous allez lire davantage parce qu'il y a des bons livres chrétiens qui nous aident à comprendre des choses dans les Écritures qui sont bien articulées. Mais ces livres-là ne devraient jamais prendre la place de la parole de Dieu dans nos vies. Et elles ne devraient jamais supplanter la parole de Dieu. Les Écritures sont suffisantes, suffisantes pour mon édification. Une prédication. On vit à une époque où il y a énormément de prédications qui sont disponibles, puis vous écoutez d'autres prédicateurs qui sont souvent tellement plus intéressants. Puis vous avez raison, parce que moi j'en écoute aussi. Fait que je suis bien d'accord avec ça. Mais est-ce que la prédication qui est apportée, c'est une exposition de la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est un petit kick, un petit pep talk pour te faire du bien et dire, « Hop, la vie, t'es un winner, mon homme. T'es un gagnant, toi. » Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on va dans les Écritures puis on plonge dans la parole de Dieu? Puis on expose la parole de Dieu, c'est ça qu'on cherche à faire. J'ai pas besoin d'autre chose en matière de foi, d'éthique, la parole de Dieu est suffisante. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. À travers cette série-là, on veut plonger les racines dans 500 ans d'histoire. Et on a un drôle de slogan au Québec, hein? Je me souviens. Comme si on avait vraiment plus de mémoire que le reste des hommes sur la Terre. Je pense pas tant que ça. Et je crois que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas nos racines. Vous connaissez pas, vous savez même pas c'est quoi la Grande Réforme. Puis ça va être une occasion pour vous de vous initier à ça, puis placer des idées. À travers cette série-là, on va voir 5 doctrines, 5 vérités essentielles que la Réforme a ramenées. Et c'est fondamental parce qu'on a redécouvert, à travers la Grande Réforme, l'Évangile de Jésus-Christ, le moyen d'être sauvé. On a redécouvert l'importance des Écritures. Dans la parole de Dieu, il y a un psaume qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Cette parole-là, vos arrière-grands-parents n'y avaient pas accès parce qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de la lire et deviendraient fous. Quand ma mère a commencé à lire la Bible, mon grand-père il a dit « Tu vas devenir folle, lis pas ça. » C'est les prêtres qui peuvent lire ça. Puis aujourd'hui, nous, le peuple, à la grande mémoire, on a oublié que ça fait pas si longtemps que ça, qu'on n'avait pas accès à la Bible. Les pasteurs se faisaient jeter en prison parce qu'ils allaient vendre des Bibles dans les villages. Et un des éléments, c'est que c'est tellement disponible maintenant, c'est tellement partout, c'est tellement là, vous avez été élevé peut-être dans l'Église, puis c'est comme pris pour acquis. Mais nos cœurs ont constamment besoin d'être réformés par la parole de Dieu. La parole de Dieu sera jamais assez présente en toi pour instruire ta pensée, ta manière de réfléchir, ton cœur, pour te conduire à Jésus-Christ constamment. Et si à travers cette série-là, vous pouvez simplement retomber en amour avec la parole de Dieu, que la parole trouve une place dans votre quotidien, le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez, Prenez toutes sortes de trucs qu'on a qui sont contemporains, la Bible audio, la Bible écrite, vous surlignez, mais vous êtes là dans les Écritures. Quand vous vous réunissez entre chrétiens, vous ouvrez la parole de Dieu, vous étudiez les Écritures. Vous dites, oui, mais je comprends rien, Yannick, c'est tellement compliqué. Des fois, tu dis des affaires, puis tu es comme 1 million de kilomètres de moi. On a des cours, on a des livres, il y a plein de ressources. Un chrétien qui se consacre à étudier les Écritures en quelques années, va maîtriser assez facilement tous les fondements de la foi. Puis va être capable de répondre à des questions à un collègue de travail, quelqu'un dans sa famille. C'est un des plus beaux héritages qu'on peut donner à nos enfants. On va aller dans la prière, puis ensuite on va chanter un chant. On a décidé de se donner un petit peu un parfum d'histoire pendant cette série-là. Martin Luther, c'était un musicien aussi, puis il écrivait des chants. Des fois, des chants un peu carrés, c'était un Allemand. C'était des déclarations. Et le chant le plus connu, « C'est un rempart que notre Dieu ». C'est comme le chant thème de la réforme sur toute la terre. Et on a décidé que ça allait être un chant thème pour nous parce que c'est Martin Luther qui l'a écrit, ce chant-là, qui a écrit « Paroles et musique ». Et on veut déclarer ça ensemble. Alors, on va aller dans la prière, puis ensuite, on va chanter ce chant-là ensemble. D'accord? Père éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir pour ta sainte parole, Seigneur. C'est une parole de vérité, c'est une parole qui est inspirée, c'est une parole que tu nous as donnée pour te connaître, toi. Seigneur, tes Écritures sont précieuses et ça peut être facile pour nous, à notre époque, de négliger, d'aller lire cette Bible en français accessible pour nous, de s'équiper pour la connaître, pour en connaître les grands fondements, les grandes doctrines, Seigneur, de l'enseigner à nos enfants. Pourtant, cette parole, c'est ta parole, c'est toi qui nous parles, Seigneur, à travers elle. Cette parole est claire pour conduire au salut, cette parole est claire pour nous équiper à fonctionner dans la vie, pour nous donner du discernement, cette parole est efficace. Seigneur, elle a transformé ma vie, elle a fait de moi un enfant de Dieu. Elle est efficace pour me montrer des choses que tu veux changer dans ma vie. Elle est efficace pour me convaincre de marcher avec toi dans tes voies, dans la sainteté. Cette parole, Seigneur, est suffisante. Je n'ai pas besoin qu'on ajoute quoi que ce soit à tes Écritures. J'y trouve là tout ce qui est nécessaire pour ma foi, Seigneur, et pour mon salut. Alors, bénis cette série à travers les prochaines semaines. Aide-nous, Seigneur, à plonger dans nos racines, avec fierté, à comprendre davantage ce prix fort payé pour que l'Évangile puisse être prêché ici au Québec, Seigneur, aujourd'hui en 2017. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.